Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Ces dernières semaines, voire ces dernières heures, outre l'actualité tourmentée au Proche-Orient, et puis celle un peu éclipsée de l'Ukraine, il a beaucoup été question du système de combat aérien du futur, abandonné, de l'actualisation de notre loi de programmation militaire 2024-2030 pour un montant de près de 39 milliards d'euros. Et en lisant ou en écoutant toutes ces informations relatives à ces sujets où se combinent de multiples logiques politiques, stratégiques, économiques, industrielles, je les mettais en vis-à-vis de toutes les manifestations tangibles d'éclatement et de déclin de notre société. Et j'avoue que je m'interrogeais sur la pertinence même de ces efforts de défense. Ne serait-il pas vain, comme le seraient ceux d'un architecte voulant bâtir sur le sable ou sur une dune menacée par la montée inexorable des eaux. Et me revenait en mémoire l'admiration prodiguée depuis longtemps aux penseurs de la déconstruction, la place faite aux apôtres de l'absurde et l'audience accordée depuis si longtemps aux turiféraires de la culture de mort. En d'autres termes, la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui pourrait nous faire désespérer à un point tel qu'il serait peut-être déjà trop tard pour voir une quelconque utilité à la défendre. Car au fond, si les armées ne sont qu'un moyen et que leur manque un grand dessein, elles courent le risque de devenir un corps sans âme, sans espoir. Et c'est pourquoi, au Libre Journal de la Défense, nous avons le plaisir d'évoquer avec Nicolas Mirkovitch. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe, bonjour à toute l'équipe.
Et d'évoquer donc avec mon vieux complice Axel Aignel, à partir de votre ouvrage publié en 2026 aux éditions des Sirtes, Le déclin et le renouveau. C'est-à-dire que c'est un livre de constat, dans un premier temps, et puis d'autre part, un livre qui nous invite, non pas à la déconstruction, mais à la reconstruction, et donc à l'espérance. Voilà, cher Nicolas, je vais laisser maintenant la parole à Axel, qui va vous présenter brièvement. Axel, à vous.
Voilà, Nicolas Mirkovitch, vous êtes essayiste, diplômé de la European Business School, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de géopolitique, parmi lesquels « Le martyr du Kosovo » chez Jean Picolec en 2013, « L'Amérique Empire » chez Temporis en 2021, « Le chaos ukrainien » chez Publishroom Factory en 2023. Par ailleurs, vous présidez l'association humanitaire Ouest-Est, qui a pour objet de rapprocher les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est, et vous intervenez régulièrement dans des médias français et étrangers pour commenter l'actualité politique internationale, et notamment dans les Balkans, compte tenu de vos racines. En 2026, donc, comme le disait Philippe, vous publiez aux éditions des Sirtes « Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront ?» Et c'est ce livre qui nous réunit aujourd'hui.
Cher Nicolas, nous allons, avant d'évoquer l'espoir, parler de ce que l'on peut appeler le spectacle tragique qui s'offre à nos yeux, même si subsistent en France encore beaucoup de braves gens, au sens brave, au sens étymologique du terme, et qui nous évite de sombrer dans un pessimisme absolu. Alors, dans votre ouvrage, j'ai noté quatre points que vous mettez en exergue et qui illustrent ce spectacle tragique. Vous nous parlez d'un État impotent et impuissant, évidemment de la question démographique, de la destruction de la famille traditionnelle, et puis le déclin économique et éducatif. Et j'aimerais vous entendre sur ce premier point de ce paradoxe, qui n'est qu'apparent, de cet état impotent et impuissant, cet état qui nous a enfermés il y a 5 ou 6 ans, qui nous interdisait de nous lever dans un TGV, et puis qui, en même temps, est impuissant face à un certain nombre d'émeutes. Et à Radio Courtoisie, nous ne sommes pas loin du Parc des Princes, et mon propos peut être facilement illustré par ces derniers événements. Donc, voilà, cet état impotent et impuissant, qu'en dire de plus, Nicolas ?
Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'État français, le véritable Léviathan, n'a jamais eu un budget aussi important. Il faut se rendre compte que le budget de l'État équivaut à 60% du PIB français. Si on remonte au début du XXe siècle, le budget de l'État était aux alentours de 14% du PIB, avec des prélèvements obligatoires aujourd'hui qui sont à proche de 45%. Alors qu'au début du siècle, quand je parle du début du siècle, je parle du début du siècle dernier, il était plutôt de l'ordre de 9%. C'est-à-dire qu'on a construit un monstre qui n'a jamais eu autant de ressources, et pour autant, quand on regarde, on n'a même pas un système de sécurité sociale qui fonctionne normalement. On n'a pas la sécurité qui est garantie aux Français. On n'a pas un système éducatif public qui permet de générer des générations de jeunes professionnels, que ce soit dans les métiers artisanaux, que ce soit dans les métiers intellectuels, capables de répondre aux besoins de l'économie. C'est-à-dire qu'on a une espèce de tonneau des Danaïdes qui est l'État français aujourd'hui, qui récupère beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les Français se saignent pour faire vivre cet État, et en face, il n'y a pas le service public qui est proposé, et il est inefficace. Parce que quand on voit ces résultats aujourd'hui, imaginons le pire des situations, on est dans un système vraiment socialiste, mais en contrepartie, on peut marcher tranquillement dans la rue. La justice fonctionne bien. On a un système éducatif digne de ce nom, on pourrait se dire, bon, on paye cher, mais au moins on a de la qualité en face. On n'a pas ça. On a à la fois un système qui veut nous contrôler de plus en plus, comme vous le mentionnez il y a quelques instants, c'est-à-dire que l'État qui ne sert plus le peuple, mais qui l'a servi, et en même temps un peuple qui se saigne pour le payer pour des fonctions, pour des services qu'il ne reçoit pas. Et ça, c'est pour moi un signe majeur de l'effondrement d'un système. Quand on arrive à un stade où autant d'argent est gaspillé et qu'il n'y a pas de résultat en face, c'est clair la faillite du système. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Parce que et des responsables politiques de droite comme de gauche ont participé à la construction de cet État, même si Emmanuel Macron a clairement accéléré le tempo, eh bien, on arrive dans un moment où le système aujourd'hui ne fonctionne plus.
Alors, ce constat que vous faites, vous l'associez à quelle cause profonde, c'est-à-dire un développement cancéreux d'une technocratie devenue folle? Une vision totalitaire d'un État qui ne s'adresse plus depuis longtemps à des corps intermédiaires, mais à des individus complètement isolés les uns des autres. On y reviendra peut-être, mais est-ce que vous trouvez, parce que votre livre, c'est un peu celui d'un médecin qui observe le malade et puis qui fait un diagnostic et qui propose des remèdes avec une ordonnance. Et en médecine, on cherche on cherche les causes au-delà des symptômes. Est-ce que vous avez une vision, j'allais dire presque philosophique ou quasi métaphysique, de ce constat de l'État impotent et impuissant?
Oui, très clairement. Je peut-être pas jusqu'à la métaphysique, mais on voit très bien qu'il y a une fracture, je pense, qui se développe dans la civilisation occidentale globalement, parce que ce qu'on rencontre en France, ces problèmes-là caractérisent également d'autres sociétés d'Europe de l'Ouest, un petit peu aussi d'Europe de l'Est, les États-Unis, l'Australie, d'autres pays. En gros, dans les années 60-70, on a vu l'émergence d'une espèce de société de consommation où on a petit à petit sacrifier ses traditions, sacrifier sa façon, on va dire, les façons traditionnelles de vivre des sociétés occidentales au profit de la consommation, de la société du spectacle, de l'individualisme, de l'hédonisme. Et pendant que le peuple se ruait là-dessus, l'ensemble du peuple, petit à petit, il s'est désintéressé de la politique. Au moment même où une élite Ce que j'appelle élite, malheureusement, c'est une élite mal nommée. On va plutôt parler des puissances financières. En tout cas, une élite qui a de l'argent. Michel Geffroy parle très bien de cette super caste mondiale. Christopher Lash aux États-Unis parle de ce même phénomène. Michael Lind aussi. Une partie de la population qui se rend compte qu'elle a le pouvoir, que le peuple s'en désintéresse. Tout est fait d'ailleurs pour qu'on désintéresse le peuple de ce qui se passe réellement, les arcanes de la finance, de l'économie, de l'information globale, technique, et peut-être pas cachée, mais en tout cas, elle n'est pas partagée avec le reste de la population. Et pendant que d'ailleurs, le reste de la population se rue sur la société du spectacle. Donc, on a une espèce d'élite qui sort du peuple. Moi, j'estime que c'est vers la fin des années 70 que c'est flagrant, et dans les années 90, c'est clair et net, et aujourd'hui, on n'en parle même pas. Cette élite, aujourd'hui, contrôle véritablement le pouvoir. Et Michel Geoffroy parle de quatre castes, quatre classes de la super classe mondiale, entre l'élite financière, qui contrôle vraiment une bonne partie de la politique aujourd'hui, parce que c'est elle qui dispose des médias, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps, qui choisit les sujets de société, c'est elle qui, par ses innovations technologiques, transforme notre société. On n'a jamais eu de débat, de discussion en France, dans le modèle occidental, sur l'envahissement des écrans, sur toutes nos informations qui étaient partagées sur des réseaux, à notre insu, parfois aussi de plus en plus. On n'a jamais eu de débat sur ces sujets fondamentaux qui ont une influence majeure sur notre civilisation, parce qu'elles nous sont imposées par ces puissances financières. Geoffroy di distingue derrière ça les communicants, la communication, le rôle majeur des écrans, des médias, qui appartiennent à ces mêmes oligarques et qui transforment la société aussi. Vous savez, le peuple n'a jamais demandé comment dire, de transgenrisme, n'a jamais demandé d'immigration massive, n'a jamais demandé toutes ces choses-là. Il n'y a pas eu de débat sur ces sujets. Cela nous a été imposé par cette élite, notamment par des vidéos, des films, de la musique. Il n'y a pas eu de débat. Et Geoffroy distingue derrière cela les cercles de réflexion, les think tanks, vous savez, ces fameux experts que nous voyons sur les médias dominants, qui n'ont d'experts que le nom, souvent qui ne sont pas des spécialistes du terrain, et en revanche qui collaborent avec des cercles de réflexion qui sont stipendiés, payés par, de nouveau, ces mêmes oligarques qui ont le système. Et Geoffroy met tout en bas des cercles de réflexion, en bas de la pyramide, si j'ose dire, les politiques. Donc, si vous voulez, on a une partie de la population qui s'est échappée avec le pouvoir, l'autre qui s'en est désintéressée. Et tant que nous avions du pain et des jeux, panem et circenses, on ne se rendait pas compte. Mais maintenant que la machine est en train de se gripper sérieusement et qu'on voit tous les méfaits de cette organisation, que ce soit dans les indicateurs sociétaux, politiques, économiques, on décroche partout, eh bien, on commence à essayer de chercher ses causes. Et c'est ça ce qu'on devrait faire. Comme le fait le médecin, eh bien, on voit que cette organisation de cette société, on va dire, cette évolution vers une oligarchie, et ce ne sont pas des termes qui doivent faire peur, hein, comme j'ai cité quelques Américains tout à l'heure, on pourrait rajouter Turchin. En France, Christophe Guilly parle de l'oligarchie, le journaliste Fabrice Arfi parle aussi de cette oligarchie qui contrôle on va dire, beaucoup dans le système politique actuel aujourd'hui. Eh bien, ce modèle ne fonctionne pas. Et c'est à cause de cela, c'est du fait qu'on n'est plus une démocratie. On peut avoir un débat pour savoir si on l'a jamais été, mais on n'est plus une démocratie. Le peuple n'a plus accès au pouvoir. On change les partis, mais la politique reste la même. Et n'oublions pas, et je voudrais terminer là-dessus, que ces oligarques étaient pendant longtemps des mondialistes, et le sont encore aujourd'hui, invétérés. Ils sont convaincus que la meilleure gestion humaine est un système où il n'y a plus de nation, plus de religion, plus d'État. C'est la libre circulation des marchandises, des individus, des biens et services. Et ils ont cru à cette chimère. Et ils nous ont propulsés là-dedans. La construction européenne est un marchepied vers le mondialisme. Les États-Unis, pendant longtemps, étaient trustés par des intellectuels, des néoconservateurs, des hommes politiques qui voulaient ce grand projet mondial qui se grippe. Parce qu'aujourd'hui, le projet mondialiste ne fonctionne pas et les peuples le rejettent. Et ceux qui en sont les tenants nous ont montré qu'ils n'arrivent pas à nous apporter la prospérité, la sérénité et la sécurité promises.
Donc vous voyez bien, Nicolas, et même si répondant à ma première question, vous étiez un petit peu réticent quant à évoquer la dimension métaphysique de votre analyse, mais au fond, vous y arrivez. C'est-à-dire que derrière le projet mondialiste, il y a bien quelque chose qui ressemble à la Genèse et au projet babélien, et
Tout à fait.
qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, conduit à une réflexion qui, au-delà du politique, même avec un grand P, nous mène à la métaphysique et aux réflexions fondamentales sur la destinée de l'humanité et la façon dont elle se construit ici-bas. Et voyez, vous écoutant, je songeais à un propos d'Hannah Arendt à la fin de sa vie, en 1972, et voilà ce qu'elle disait, je peux très bien vivre sans faire quoi que ce soit, mais je ne peux pas vivre sans du moins essayer de comprendre les événements, quels qu'ils soient. Et je crois, je le dis à l'endroit de nos auditeurs et certainement vos futurs lecteurs, qu'un des grands mérites de ce livre, c'est de nous montrer que vous faites partie de ceux qui essaient de comprendre en profondeur les choses. C'est un grand intérêt de votre livre, et qu'on ne peut pas comprendre en profondeur. Si on ne comprend pas en profondeur, on ne peut pas proposer de solution. Et c'est un peu, à mon avis, le drame de nos pré-campagnes électorales, qu'elles soient présidentielles ou autres, c'est de ne pas sonder la profondeur des choses et de ne pas y discerner les failles profondes de notre civilisation. Donc on a quand même, malgré tout, une approche un peu métaphysique
Oui, je vous le
voilà,
conseille.
métaphysique de la question, médicale aussi, parce qu'au-delà des symptômes, vous allez sur les causes. Alors j'évoquais, bon, vous l'avez déjà dit un petit peu, les quelques éléments, les linéaments de ce spectacle tragique. Vous évoquiez la question migratoire qui est liée à la question démographique. Et là encore, le regard que vous portez, il s'étend aux tentations mondialistes de faire un monde où chaque individu égale un autre, interchangeable. Et ça aussi, je parlais de l'élite, cette question d'interchangeabilité des individus, vous la voyez s'affirmer à partir de quand sur la scène du monde?
Je pense que n'oublions pas qu'on a un acteur majeur qui est derrière ce projet mondial, que sont les États-Unis. Alors, je ne suis pas en train de mettre tous les Américains dans le même panier, mais les États-Unis sont un peu le modèle, cette espèce de tour de Babel que ces élites veulent constituer. Dès le départ, quand les Européens quittent le continent européen pour fonder les États-Unis, ils ont cette vision de la cité sur la colline, comme le disait Winthrop, le premier gouverneur du Massachusetts, avant même que le pays devienne les États-Unis. Il disait que tous les pays devront nous regarder comme la cité sur la colline, en faisant cet emprunt biblique tout au long de l'histoire des États-Unis. On a cette vision de la construction américaine comme comment dire, d'une pré-mondialisation, c'est-à-dire.
Alors, attendez, Nicolas, parce que là, vous nous intéressez, j'allais dire diablement, non, pas diablement, à propos justement de l'équipe qui entoure Trump, et puis notamment du secrétaire d'État à la guerre et non plus à la défense, on parle beaucoup d'un rapprochement entre les évangéliques messianistes et puis une partie du courant judaïque ou juif. Et est-ce que entre l'Amérique et Jérusalem, il y a une espèce de vision messianique commune? Là, ce que vous évoquez sur la cité sur la colline, ça renvoie aussi à beaucoup de psaumes sur Jérusalem, sur la vision de la Jérusalem future. Et on peut dire quelque chose là-dessus? Il y a une convergence?
Oui, il y a une convergence. Ce que je voulais juste dire avant, c'est que par rapport au mondialisme, le projet américain est un projet mondialiste. Ils ont un projet de faire venir des personnes du monde entier, de les transformer en Américains. Donc c'est un pays qui a été fondé sur l'immigration, c'est un pays qui a été fondé sur l'attrait du capital, c'est le modèle du capitalisme. C'est un pays où aujourd'hui on peut avoir des libertés locales, mais au niveau fédéral, c'est l'État qui gouverne tout. Donc une espèce de centralisation de certaines puissances, même s'ils sont moins centralisés que nous. Mais en gros, ils préfigurent cette construction mondiale et le pouvoir qui échappe aux Français aujourd'hui, qui a été, comment dire, accaparé par une élite financière. guerre, elle a été aux États-Unis aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce modèle occidental gouverné par des personnes qui n'ont pas de mandat forcément politique et qui ont ce projet mondialiste et qui s'inspirent de ce qui s'est passé aux États-Unis. Maintenant, évidemment, pour répondre directement à votre question là, il y a une collusion entre ces évangélistes et certains milieux que j'appellerais plutôt sionistes aux États-Unis. C'est historique. Certaines personnes parmi les courants protestants majeurs aux États-Unis confondent l'Israël de la Bible et l'Israël pays, qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, confondent la Jérusalem céleste et Jérusalem, la ville. Et il y a une collusion qui est entretenue aussi par des lobbies sionistes, AIPAC aux États-Unis, qui était vraiment un lobby qui ne dit pas son nom, qui paye des campagnes. On l'a vu notamment lors de l'élection de Thomas Massie, qui était un membre du comité de représentants des États-Unis qui vient de perdre. En face de lui, il avait des lobbies très israéliens, très clairement, qui ont payer des campagnes contre lui. Donc, il y a une influence majeure. Donald Trump le dit, lui aussi. Hein, il avait reconnu dans le passé l'impact, et je pense qu'on ne peut plus le cacher. Il y a une collusion entre une partie de ces évangéliques américains et des mouvements sionistes. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et c'est un point, et c'est assez intéressant, qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, parmi ces évangéliques ou parmi des protestants, il y a des voix qui s'élèvent et qui disent justement, qui reprochent à Donald Trump toute cette énergie qu'il met dans la balance de cette guerre en Iran, guerre illégale, il faut le rappeler, guerre aux côtés de Benjamin Netanyahu. Il y a un article incroyable dans le New York Times, on ne va pas croire tout ce que dit le New York Times, mais celui-ci est digne d'intérêt, qui explique comment Donald Trump a été vraiment retourné par Netanyahu.
Oui, dans cette fameuse réunion à la Maison-Blanche, avec une présentation des objectifs et la quasi-certitude que l'opinion publique iranienne allait se retourner au bout de quelques jours de campagne et que le régime tomberait, c'est ça, oui.
Exactement, avec même Hegseth qui est un tout petit peu dubitatif, J.D. Vance qui dit que c'est une mauvaise idée, le responsable de la CIA qui dit aussi que c'est une mauvaise idée, et pourtant Trump qui est plutôt quelqu'un qui réagit au flair, croit Netanyahou, croit en effet qu'avec un coup massif, le gouvernement iranien va être décapité, il y aura un renversement de gouvernement et qu'il fera en Iran ce qu'il a fait au Venezuela, un coup de maître complètement illégal, mais un coup de maître géopolitique néanmoins. Et ça n'a pas marché. Et les Américains ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ils se sont rendus compte, pour certains, récemment, qu'il y avait une influence majeure d'un État, Israël, qui reçoit déjà beaucoup de subventions de la part des États-Unis. Par des têtes d'habitants, c'est un des pays qui reçoit le maximum. Et les Américains se disent, mais pourquoi est-ce que nous dépensons autant d'argent, d'énergie? Pourquoi est-ce que nous faisons la guerre avec Benjamin Netanyahou? Et je rappelle que tous les Israéliens ne pensent pas comme Netanyahou. Il y a eu des manifestations massives en Israël contre ces guerres aussi. Malheureusement, nos médias n'en parlent pas. Et cette espèce de vision messianique du côté américain, avec cette confusion entre l'Israël céleste et l'Israël terrestre, qui se rejoint, cette espèce de messianisme israélien qu'il y a dans l'entourage de Netanyahou, de personnes qui croient vraiment que l'Israël céleste et l'Israël terrestre sont la même chose et qui veulent agrandir le territoire israélien, que ce soit en détruisant Gaza, que ce soit en récupérant le sud du Liban, que ce soit en récupérant le Golan ou d'autres territoires en Syrie et peut-être même ailleurs. Et ça, ce sont des courants politico-religieux importants dans les deux pays et qui aussi conduisent une partie de leur politique étrangère.
Alors, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais pas que, parce qu'on y revient via la question migratoire encouragée par tel ou tel lobby d'influence mondiale, où, je le disais, l'homme est vu comme interchangeable au détriment des nations et des patries charnelles. Et ce mouvement s'accompagne aussi, et on le voit depuis au moins 50 ans, de la destruction de la famille traditionnelle et la promotion de modèles familiaux divers et variés. Alors cette destruction de la famille traditionnelle que vous évoquez aussi dans votre livre, vous y voyez aussi, vous voyez en elle aussi des causes lointaines qu'on peut peut-être attacher à la Révolution française, à sa vision, j'y reviens, de l'individu isolé. Qu'est-ce qui s'est passé en Occident pour que la famille traditionnelle sur laquelle reposait notre civilisation soit mise en cause de façon aussi brutale? Alors, les sociologues constatent, mais n'expliquent pas ou ne reviennent pas à la genèse des choses. Là encore, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la famille?
Ceux qui sont au pouvoir, qui ont ce projet mondialiste, ne veulent pas d'organisation, ils ne veulent pas en face d'eux des traditions, des pays, des nations, des peuples, ils veulent l'individu. Or, la famille est le pilier de nos sociétés chrétiennes, en tout cas occidentales, et même je dirais que c'est un des piliers de la plupart des sociétés. Donc si vous voulez saper une civilisation, vous attaquez le pilier. C'est ce qui sera de plus efficace. Parce qu'une fois que vous n'avez plus de famille, eh bien, vous n'avez que ces individus. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer Tocqueville, qui, au début du 19e siècle, décrit les risques de la démocratie tels que lui les voit aux États-Unis. Et il dit, il pourrait y avoir une forme de despotisme qui naisse de cette démocratie. Et il décrit une société dystopique où il parle très clairement de despotisme, où des individus tournerait seul autour d'eux-mêmes en cherchant à se remplir l'âme de vulgaires plaisirs, qu'il n'y aurait quasiment plus de famille, qu'il n'y aurait plus de lien avec le reste de la société, qu'il n'y aurait plus de patrie, et que régulièrement, il serait sorti d'une situation où le pouvoir l'entretiendrait dans une espèce d'éternelle jeunesse et le sortirait de cet état pour qu'il choisisse régulièrement son maître. Et une fois le nouveau maître choisi, eh bien, il le replongerait dans cet état. Ça, c'est Tocqueville qui le voit au début du 19e siècle. Il était clairement prophétique. Ceux qui sont les tenants de ce nouvel ordre mondial, du mondialisme, veulent saper la famille parce que c'est la famille qui permet de résister. C'est la famille qui conserve les traditions. C'est la famille qui est le premier écrin de l'éducation, de l'amour. C'est ce que dit le philosophe français contemporain Fabrice Hadjadj. C'est extrêmement important de défendre la famille. Et ce n'est pas qu'une valeur chrétienne. Moi, je pense qu'on peut défendre la famille parce que c'est une valeur chrétienne majeure, mais aussi une valeur sociétale. C'est dans la société qu'on apprend l'amour. De l'amour de deux êtres naissent un nouvel être qui ils apprennent à grandir ensemble, à s'aimer, à se protéger tout au long de leur vie. C'est dans la famille qu'on apprend l'éducation. Qu'est-ce que c'est? Les règles, le respect, l'autorité, la collaboration. C'est dans la société, dans la famille, qu'on apprend également le respect de l'autre, l'altérité, l'homme, la femme, le jeune, le vieux, le plus proche, le moins loin. On crée dans une famille des liens avec évidemment ses parents, ses enfants, mais ses oncles, ses tantes, les parrains, les marraines. C'est une micro-société en soi. Et si vous déstabilisez cette micro-société qui est garante de la liberté, eh bien, vous n'avez plus de barrière au bout d'un moment entre l'individu et la surpuissance, et l'État, ou alors c'est multinational, multinational dans le mauvais sens du terme, on va dire c'est une superpuissance financière, pour être tout à fait exact, et ils ne veulent plus de barrières, ils veulent accès à l'individu, parce qu'une surpuissance qui n'a que des individus en face de lui ne risque plus rien. Or, qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est le regroupement des familles, cela nous vient d'Aristote de l'Antiquité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En détruisant la famille, ils espèrent détruire la société, en détruisant la société, ils espèrent avoir en face d'eux que des individus qui vont être évidemment corvéables à merci.
C'est-à-dire que c'est la vision de Hobbes versus la vision d'Aristote. D'un côté, Aristote avec la vision d'une société organique tournée vers le bien commun, et puis d'autre part, celle de Hobbes où l'homme est un loup pour l'homme, vous dressez les gens les uns contre les autres, et vous avez surplombant un État tout puissant. On en est arrivé. Je caricature un petit peu ou je simplifie.
Bon, mais on n'est pas loin.
Mais on n'est pas loin de cette vision. Axel.
Oui, pour une remarque faisant suite à ce que vous venez de dire sur les attaques sur la famille, on peut se demander si on considère la tragique actualité française avec l'affaire de la malheureuse petite jeune fille qui a été agressée, violée et tuée. On peut se demander s'il y a toute une rhétorique qui consiste à dire que finalement c'est au sein des familles qu'ont lieu le plus grand nombre d'agressions contre les enfants. Et finalement, on peut se demander, est-ce que ce ne sont pas des mécanismes qui tendraient à justement discréditer la famille en disant que finalement, il vaudrait mieux que ce soit l'État qui s'occupe des enfants parce qu'il protégerait ainsi les enfants et que finalement, au sein des familles, alors que c'est le contraire qu'on voit, puisque avec l'affaire des, du périscolaire.
Et c'est le scandale à venir de l'ASE, certainement.
Voilà, de l'ASE. On voit bien que c'est l'État qui a failli. Eh bien, il y a une espèce de surenchère qui consiste à dire oui, bien sûr, l'ASE a failli, mais dans les familles, c'est encore pire. Et finalement, il y a tout un mouvement qui consiste à essayer d'attaquer la famille par ce biais.
Vous avez 100% raison. Toutes les occasions sont bonnes pour saper la famille. Et au lieu de parler de l'impéritie de l'État français, de l'incapacité de la justice française de mener à bien son travail, une fois qu'ils ont un malfrat très, très clairement identifié, on les laisse sur la rue pour qu'ils puissent violer, tuer. Au lieu de parler de ça, évidemment, on va accabler la famille. Même si la statistique est vraie, le sujet est ailleurs. La pédophilie est un sujet qui concerne l'ensemble de la société française, qui est gravissime, mais le problème de fond n'est clairement pas la famille dans ce sujet si présent. En gros, il y a en effet, et je reviens à vos deux questions, à Axel et Philippe, cette volonté de détruire la famille, on voit qui date pour partie de la Révolution française, Rabault-Saint-Étienne, vous voyez très bien dans l'éducation nationale, la mère de tous les Français. Donc du coup, supplantant la mère biologique, nous avions il y a encore quelques années Vincent Peillon, qui a été ministre socialiste, qui disait aussi qu'il voyait l'éducation nationale comme une religion. Mais également de personnes qui pensent que c'est l'État qui doit éduquer les enfants, qui doit les enseigner, parce que la famille représente, je vous dis, cette espèce de barrière, de frein à l'hégémonie totale d'une toute-puissance sur l'individu. La famille est un écrin, protège. Et tout ce qui peut être dit aujourd'hui pour diviser la famille, pour la détruire. On nous a aussi fait croire, n'oubliez pas, dans les années 70, que le divorce, que l'avortement, que la contraception, que tous ces éléments-là allaient être fantastiques, et la société l'a cru. Et si ça avait été le cas, on le verrait aujourd'hui. On se dirait, c'est génial, écoutez, dans ma vie, j'ai eu 14 femmes, j'ai eu 12 enfants, ou peut-être moins ou plus, j'ai tout pratiqué, j'ai tout fait, je suis extrêmement heureux, et la société s'en comporte très bien. Regardez, on est tous très heureux, est-ce que c'est le cas? Non. Et on a, non seulement ce n'est pas le cas, mais on a suffisamment de recul, où des sociologues, des médecins sont capables de dire, de peser. Alors je ne suis pas en train de apporter un jugement de valeur. Je suis bien placé pour savoir qu'avoir une famille, c'est une aventure tous les jours. Hein. Le père de famille disait Peggy, c'est l'aventurier des temps modernes. C'est pas facile tous les jours. Mais une société qui a encouragé le divorce et les personnes se disaient, il suffit, j'ai une situation difficile pour la régler, je change de femme ou je change de mari et tout va s'arranger. Eh bien, ce n'est pas vrai. Non seulement ce n'est pas vrai, les personnes ne trouvent pas forcément le bonheur ailleurs. Et il y a des répercussions sur les familles.
Je ne veux pas cacher à vous-même, aux auditeurs, que Axel et moi, nous sommes de la génération du milieu des années 50. Et ce qui est terrible dans ce que vous dites et dans ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand même, au milieu des années 70, nous étions quand même déjà une petite minorité, au nom du bon sens, à nous dire « mais est-ce que tout cela va rendre les gens heureux, c'est-à-dire la loi Neuwirth, la loi Veil modifiée, le divorce par consentement mutuel du grand démocrate chrétien Jean Le Canuet, est-ce que tout ça va rendre les gens plus heureux ? Mais quand vous disiez ça au début du septennat de Giscard, en 1974, vous passiez pour un doux illuminé. Parce que c'était l'époque de la démocratie apaisée, de l'évolution des mœurs, et beaucoup avaient le sentiment, certainement de bonne foi, que tout ça allait libérer les gens. Et alors, voilà, je fais cette remarque parce que ce qui m'a frappé dans les dernières campagnes présidentielles, c'est le terme « émancipation ». C'est toujours dans la bouche d'un certain nombre de candidats. La politique, elle n'est plus là au service de la cité, elle est au service de l'émancipation de l'individu. Ce qui fait que le politique, à mon avis, se scie la branche quand il se fixe comme objectif l'émancipation qui est sans fin, il n'y a pas de barrière. Et il me semble, alors j'aimerais bien aussi avoir là aussi votre constat, vous le dites dans le livre, mais je pense que dans notre émission, c'est intéressant de le redire et peut-être d'approfondir, c'est que nous sommes à la convergence de plusieurs courants qui viennent de très loin dans notre histoire. On n'évoquait que les 50 dernières années, mais est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui, là, en ce premier quart de 21e siècle, est-ce que c'est pas le grand procès des Lumières, au fond?
Alors, je suis pas assez expert sur ce sujet.
Je suis prudent, mais voilà, c'est une question, je l'avoue livre, parce que elle m'agite par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre, ce qu'on a appris à des tas de générations. On est encore dans le culte des Lumières, c'est un tabou dans beaucoup de milieux de ne pas les critiquer, mais l'individualisme dont on parle, qui est quand même plus que sous, qui est développé au moment de la Révolution, la fin des corps intermédiaires, cette émancipation infinie. Et alors peut-être qu'avant, on peut remonter au nominalisme, au XVIe siècle, à la Renaissance, mais enfin, est-ce que... Et votre diagnostic et vos propositions, parfois je me dis, mais est-ce qu'elles sont à la mesure de cette convergence de ces courants mortifères? Voilà, c'était... Pas la critique, mais on y reviendra dans la dernière partie de notre émission sur votre chantier. Mais est-ce qu'on n'est pas là, finalement, où des grands fleuves de l'histoire, de la pensée, de la déconstruction sont en train de converger et de rendre la crise tragique?
Oui, en effet, l'évolution récente de la société n'est pas liée seulement aux idées de mai 68 et la réaction des peuples européens à deux guerres mondiales terribles, qui, je pense qu'on ne mesure pas le poids de ces guerres sur la conscience, sur le moral des Européens qui ont vraiment commencé à vraiment voir l'horreur. Il y a toujours eu la guerre dans l'humanité, mais ce qu'on a vécu pendant le XXe siècle, je pense, a atomisé tout ce qu'on a pu connaître dans les siècles précédents. Et bien évidemment, les lames de fond de déconstruction de la société, du projet mondialiste, du projet de cette nouvelle tour de Babel, sont à retrouver dans le temps. Et on a très clairement des auteurs de la Révolution française qui veulent faire du passé table rase, qui veulent déconstruire la société. Les éléments majoritairement anti-chrétiens, anti-catholiques qui ont émergé lors de la Révolution française tentent encore aujourd'hui d'effacer ce passage. Or, je pense que les racines chrétiennes sont fondamentales dans l'histoire de France, que la chrétienté a formé la France et qu'en voulant se couper de ses racines, on tue une plante. C'est biologique. Et on a des auteurs, en effet, qui veulent détruire, qui ont tenté, en tout cas, de détruire Dieu, détruire Dieu, détruire les liens, les liens entre les hommes, détruire les corps intermédiaires. Ça, c'est une idée de la Révolution française. Hein. Il faut attendre la fin du 19e pour avoir l'autorisation d'avoir des syndicats. Il faut attendre le début du 20e, la loi de 1901 sur les associations. Donc ça, ce sont des actions directes de la Révolution française qu'on ne rappelle pas aujourd'hui, où il y a cette volonté, en effet, d'avoir l'État qui guide le peuple, qui guide les individus, à vrai dire, même pas le peuple. Et c'est amusant parce qu'on parle des droits de l'homme à cette époque-là, et quand on lit Karl Marx, il est le premier à dénoncer ces fameux droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas de devoir de l'homme, et ces droits de l'homme qui sont donnés par qui? Qui sont donnés par un État qui serait au-dessus du peuple, alors que l'État sert le peuple en principe. Donc oui, il y a une lame de fond, il y a des puissances différentes et des courants de pensée qui veulent détruire les nations, qui veulent détruire la religion, qui veulent détruire les peuples, et elles convergent en ce moment. Elles pensent, et je pense, que tout ce qu'elles ont fait par mitraditisation ces dernières générations, tranquillement, elle nous a fait quand même avaler des grosses couleuvres. Quand on regarde, vous parler des différents sujets des années 70, on n'a pas... Certains ont réagi, il n'y a pas de doute, le peuple n'a pas réagi. Aujourd'hui, elle se précipite parce que justement, ce modèle ne fonctionne pas. Elle fonce dans le mur et elle veut essayer de finir son programme rapidement, de peur qu'elle ne puisse pas le faire et que les peuples se réagissent tout simplement contre ce modèle.
C'est vrai qu'on on nage aussi dans la contradiction. Partout, on est à la recherche de sens, alors que ce soit dans l'entreprise, voire dans les armées, se pose la question, le sens. Mais en même temps, on continue de mettre sur les autels, entre guillemets, de la République, des gens comme Sartre, pour lesquels l'homme est une passion inutile. On se pose la question de la démographie et on pleure devant les taux de natalité en berne, mais on continue, notamment sur le service public, j'écoutais récemment une émission, à mettre en avant la grandeur de la pensée d'une Simone de Beauvoir qui s'est privé volontairement de maternité en mettant en avant les droits de la femme, etc. Donc on est aujourd'hui en pleine contradiction, mais ce qui me semble un facteur d'espoir, d'abord c'est le constat que subsistent des familles, une belle jeunesse certes minoritaire, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu et observé à partir du milieu des années 70, le Club de Rome sur l'épuisement des ressources, la nécessité de réduire la population, aujourd'hui, il me semble qu'il y a quand même une prise de conscience. Alors, c'est un peu difficile, votre livre y contribue, mais les contradictions du système, entre guillemets, sont telles que le bon sens et un peu d'intelligence amènent à se dire mais quand même, il faut trouver d'autres choses, il faut trouver d'autres solutions. Alors, nous allons aborder, je voulais évoquer le déclin éducatif, mais la question du baccalauréat ces jours-ci illustre ce déclin dans lequel nous sommes. Pour arriver toujours dans cette suite de première partie sur le spectacle tragique, sur le rejet de nos origines, parce que ce qui est tangible aussi depuis longtemps, c'est le refus de la continuité historique, c'est-à-dire que la France commence le 14 juillet 1789 et globalement, les 1000 ans qui précèdent semblent pleins d'obscurité et en tout cas ne concernent pas notre vécu d'aujourd'hui. Alors ça, vous le dites aussi dans votre livre, quand on rejette ses origines, on ne sait pas d'où on vient, donc difficile de savoir où on va. Donc ça, c'est le premier point, le rejet des origines. Vous êtes très allant contre vis-à-vis du soft power américain. Vous êtes vigoureux, vous parlez de l'américanisation et la corruption des élites. Alors là, vous en avez un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on y revienne. Donc le rejet des origines, si vous souhaitez qu'on l'évoque, tout à fait d'accord. Vous rejoignez là Hannah Arendt qui considérait, elle, regardant les succès, les vertus de la République romaine, disant que les Romains savaient relier les origines, les fondements, et puis l'autorité politique. C'est-à-dire que sans considération de nos fondements anciens, le politique perd toute légitimité. Et à mon avis, c'est un vrai problème aujourd'hui. Quelle légitimité au politique ? Mais si vous le voulez, revenons sur ce que vous dites de cette corruption par l'américanisation de nos élites entre guillemets. Parce que vous êtes quand même un expert de cette question-là. Autrefois, du temps de l'URSS et puis du partage du monde entre Américains et Soviétiques, on parlait des agents d'influence soviétiques, des agents dormants, etc. Vous considérez vraiment que depuis de longues décennies, nos élites sont atteintes de ce virus étrange et mortifère de l'américanisme.
Oui, c'est le général de Gaulle le dit des années 60. Il gourmande le snobisme de la bourgeoisie française. La bourgeoisie, le snobisme anglo-saxon de la bourgeoisie française. Il y a une volonté dans cette élite américaine, donc qui se sert également des États-Unis. Nous voyons bien dans ce contexte de construction d'un monde, d'un nouvel ordre mondial, la volonté des élites américaines de se servir de la puissance de feu médiatique des États-Unis pour transformer la société. Je vous disais tout à l'heure en début d'émission qu'il est beaucoup plus facile de transformer la société par des écrans qu'en mettant un pistolet sur la tempe d'un législateur pour l'obliger à mettre en place une loi. Et non seulement nous avons cette transformation, cette réingénierie sociale, il faut employer le bon terme, à travers les écrans, à travers les vidéos, les films qui nous montrent ces modèles évidemment toujours joyeux, de familles éclatées, de familles décomposées, d'immigration toujours heureuse, d'expériences avec les drogues qui pourraient être plus ou moins heureuses aussi. Donc ces écrans rentrent dans nos sociétés, transforment la société et vont à l'encontre souvent de ce que les familles enseignaient à leurs propres enfants, ce qu'une société devrait enseigner. Et il y a cet élément de soft power, de pouvoir doux qui permet de changer la société sans avoir tiré une balle. C'est ce que dit Michael Fraser, qui est un expert des médias américains, et qui parle lui, qui dit que c'est très bien, lui il est très content de l'américanisation du monde. Mais lui, il dit que ce sont des armes de distraction massive, parce que du coup, ils arrivent à transformer la société sans avoir à tirer une balle. Mais en parallèle de cela, Vous avez tout le travail qui est réalisé par des fonds américains, des fonds gouvernementaux américains à travers le monde. Alors, on en a parlé quand Trump a pris le pouvoir parce qu'il a mis fin à certains projets, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont injecté des milliards de dollars dans les sociétés civiles du monde pour faire avancer leur programme en finançant des projets, en finançant des associations, en finançant des groupes de réflexion. Tous ces experts, pas tous peut-être, mais une bonne partie des experts que nous voyons passer sur des sujets de géopolitique sur les plateaux de télévision des médias dominants proviennent pour partie de groupes de réflexion où qui sont financés par les États-Unis, par les Atlantistes, par l'OTAN. Et ça, on n'en parle pas. Alors évidemment, aujourd'hui, avec Internet, c'est assez simple de voir qui participe à ces associations, mais on voit les personnes qui viennent du Sérail et qui sont autorisées à parler. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont payés pour ça. Ou alors, ils participent à des associations qui, elles, reçoivent de l'argent. Des organisations comme l'USAID, comme la National Endowment for Democracy, qui non seulement ont, comment dire, partagé avec à coups de milliards ces réflexions atlantistes, mondialistes américaines, mais qui sont allées jusqu'à organiser des coups d'État en ex-Yougoslavie, je le sais, je suis très bien placé, en Géorgie, en Kirghizistan, en Arménie, en Ukraine, deux fois. On a quand même eu deux révolutions, on appelle ça aujourd'hui des révolutions de couleur, mais ce sont des politiques d'ingérence des États-Unis où ils ont des hommes liés sur place, ils ont des organisations financières, politiques et quasi même militaires capables de mettre des personnes dans la rue pour faire tomber un gouvernement qui n'est pas aligné sur les intérêts des États-Unis. Et en France, nous avons une organisation qui s'appelle la French American Foundation, la Fondation franco-américaine, qui identifie des personnalités prometteuses dans l'armée, dans la société civile, dans la recherche et le développement. Et on les envoie aux États-Unis, dans les universités américaines. Alors vous savez, c'est Hollywood. On leur montre toute la partie agréable des États-Unis, des super campus, des professeurs, c'est clair, d'un très très bon niveau. On leur fait participer à la vie américaine en leur faisant circuler dans une rue, dans une voiture de police la nuit, mais on leur montre pas toujours l'envers du décor. Là, plus de centaines de millions de pauvres aux États-Unis, les 40% d'obèses, les problèmes de drogue, on leur montre pas. Et ces personnes-là entretiennent des relations tout au long de leur carrière, et comme par hasard, on les retrouve dans la vie politique plus tard. Jean-Noël Barrot a été Young Leader de la French American Foundation, comme Emmanuel Macron, comme Najed Vallaud-Belkacem. On a plein de responsables politiques qui sont pris en charge par des associations qui reçoivent de l'argent ou du gouvernement américain, ou de grandes comment dire, organisations philanthropes, mais qui sont Rothschild, qui sont la Fondation Ford, et qui, aujourd'hui, permettent de placer des atlantistes, des mondialistes, si vous préférez, dans les gouvernements, d'encourager leur promotion au sein de la société. Et comme je le disais en début d'émission, une bonne partie des médias dominants appartiennent soit à des oligarques qui sont eux-mêmes mondialistes, ou à l'État, eh bien, il est très facile de faire d'Emmanuel Macron en 3 ans, le candidat chouchou des Français, alors que personne ne le connaissait avant et qu'il n'avait pas collé une affiche de sa vie.
Alors, ce qui suppose, quand on évoquera la question des remèdes et puis de l'espoir plutôt que le désespoir, que faire par rapport à cette influence civilisatrice américaine? Quel sursaut cela suppose, un sursaut de puissance, mais on le voit avec la question d'anthropique et puis de l'intelligence artificielle, un sursaut de volonté, mais pour défendre quoi et pour promouvoir peut-être pas quel modèle français, mais quelle certitude civilisationnelle pouvons-nous avoir pour dire à nos amis d'outre-Atlantique que finalement nous ne voulons plus de leur modèle ou de leur soft power. À mon avis, c'est une question que j'ai moi aussi, c'est qu'en cas de grand changement politique, eh bien, il faudra savoir dire non, il faudra savoir s'opposer, et ça peut être très compliqué. Alors, avant d'aborder dans cette dernière partie d'émission les remèdes, cher Nicolas, pour freiner la chute. Pour l'instant, on est dans freiner la chute et après,
Oui.
on verra quand l'équilibre sera atteint. Un tout petit bobino, chère Claudia, pour rappeler à nos auditeurs qu'il faut aider notre chère radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et aujourd'hui, dans le cadre du Libre Journal de la Défense, Axel Hennel et moi avons le plaisir de recevoir Nicolas Mirkovitch pour évoquer son ouvrage « Déclin et renouveau » paru en cette année aux éditions des Sirtes. Alors, nous, après un constat un peu lourd, un peu pesant, un peu tragique de la situation dans laquelle se trouve notre chère France, nous allons, pour cette deuxième partie d'émission, évoquer les remèdes. Et alors, avant d'évoquer les remèdes, parce que c'est aussi le jeu de notre émission, quelques questions ou observations de nos auditeurs. Bonjour messieurs, passionnante émission. Alors quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'on aura une Jeanne d'Arc ou une Isabelle la catholique pour sauver notre catholicité mise à mal depuis 250 ans? Merci, très belle émission. Donc, première question, on rejoint la métaphysique ancrée dans l'histoire. Nicolas, est-ce que nous aurons une Jeanne d'Arc? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est une observation. À l'époque de la Révolution, le peuple est déjà en réalité constitué par les factions parisiennes qui s'entretuent allègrement au nom des grandes valeurs de la République. Ne s'en sortiront que les opportunistes que le peuple prend pour de grands politiques. C'est-à-dire qu'au fond, la politique ne devient qu'une question d'opportunisme. Est-ce que c'est votre opinion, mon cher Nicolas? Et puis quelqu'un qui nous rappelle un épisode récent, mais qui n'honorait pas ceux qui l'ont mis en œuvre. Quelqu'un qui nous dit, en visionnant la fête de la musique organisée à l'Élysée le 21 juin 2018 par le couple présidentiel, j'ai compris dans quelle société on veut nous emmener. Remplacer la société traditionnelle par une société où l'individu se détruit en croyant vouloir tout contrôler de lui-même. Ce qu'il ne sait pas, qu'en voulant prendre le contrôle de sa destinée, il va à sa perte. C'est la question du contrôle absolu de l'être humain par lui-même et peut-être derrière le projet transhumanisme. Puis le contrôle des masses par leur perdition. C'est ce que vous disiez sur les pains et les jeux. Et peut-être que la Coupe du Monde en Amérique du Sud et du Nord va nous illustrer cette logique ancienne. Voilà, ces observations. Donc, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on peut attendre une Jeanne d'Arc? Est-ce que les politiques ne sont plus que des opportunistes? Et puis, ce spectacle du 21 juin 2018 dans la cour de l'Élysée, cher Nicolas, qu'est-ce que ça a pu vous inspirer? Voilà, alors, Jeanne d'Arc.
Alors, Jeanne d'Arc, il ne faut pas attendre de nouvelles Jeanne d'Arc, mais il faut susciter la venue d'une nouvelle Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que la femme ou l'homme providentiel ne viendra qu'au peuple qui aura préparé le terrain. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'être comporté comme des cigales pendant des générations. Je ne pointe pas. Il y a évidemment des personnes qui se battent depuis longtemps, mais qui étaient évidemment minoritaires, dont je fais partie. On ne peut pas s'être comporté comme des cigales et tout d'un coup se réveiller fourmi. Ce n'est pas un process ou un mécanisme qui peut se passer du jour au lendemain. Donc, il faut préparer le terrain. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes nombreux. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne sont pas nombreux. Ils ne sont vraiment pas si nombreux. Ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont de la puissance, ils sont organisés. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Le problème, c'est que nous n'avons pas la puissance financière. Et donc, je pense qu'il y a un premier point où les personnes qui veulent changer la France doivent s'engager à financer des projets auxquels ils tiennent, et je pense que c'est important. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et on ne peut pas toujours tout faire, mais on peut aider financièrement. Je rappelle que dans certains groupuscules d'extrême-gauche, on demande aux militants de donner jusqu'à 10% de leur salaire annuel. Donc, est-ce que nous mettons nos moyens derrière des projets qui vont permettre de sauver la France ? Première question. Après,
et d'ailleurs,
surtout...
juste, j'observe que la bonne presse ne dit rien des relations entre Monsieur Pigasse, par exemple, et puis tel ou tel parti d'extrême-gauche. En revanche, quand on décide de financer des opérations dans le cadre du bien commun, eh bien, on a un déluge d'observations de la part de cette autre bonne presse.
Parce que ça leur fait peur, parce que eux font ça, nos adversaires font ça depuis longtemps, et nous on découvre, parce qu'on a été naïfs, on a été vraiment les Bambi. Désolé pour la référence à Walt Disney, mais Walt Disney c'est quand même il est d'origine normande, il s'est inspiré des fables et des légendes européennes, mais nous avons été extrêmement naïfs dans cette histoire. Donc on a cru que nous évoluions dans un modèle démocratique, on a cru qu'il y avait le bien commun, et puis on se réveille vraiment avec, désolé, mais avec une gueule de bois. Mais c'est pas trop tard, on va se réveiller, on va s'en sortir, mais il faut agir. Donc, Jeanne d'Arc ne viendra pas si le peuple l'attend. Jeanne d'Arc viendra si le peuple est impliqué dans la société civile, si les Français aujourd'hui vivent en français, s'ils n'ont pas peur de leur culture, s'ils n'ont pas peur de leur héritage, s'ils font vivre cette culture. On parlait, vous disiez tout à l'heure, Philippe, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette américanisation de la culture ? Eh bien, il faut à tout prix faire vivre notre propre culture. On peut amener des enfants, croyez-le moi, à des pièces de théâtre, et vous allez voir, ils vont être ravis, mais on n'y pense pas, on n'a pas le réflexe. Il y a plein de très belles pièces de théâtre où nous pouvons les apporter. On peut vérifier à quelle est la littérature qu'on donne à nos enfants. On peut faire partie de groupes de livres de bibliothèques tournantes. Il y a plein de choses. On peut passer l'après-midi à expliquer tout ce qu'on peut faire pour partager le beau, la grandeur de la culture française. Aller dans les musées, participer à des spectacles, participer à des fêtes de village. Ce que fait le canon français, où des Français se retrouvent pour chanter des chansons françaises et terminer et manger de la nourriture du terroir, c'est fantastique. Et voyez quelle haine attire le simple fait de faire vivre sa culture, qu'une culture moderne en
plus.
Ça
montre que l'objectif est atteint d'une certaine façon. Quand ces activités déclenchent tant de haine, on se dit, ça gêne beaucoup.
Exactement, ça gêne et c'est positif parce que ces regroupements rassemblent des milliers de Français. Vous avez des jeunes Français aujourd'hui aussi qui reconstruisent des calvaires. Et donc, cette élite qui a le pouvoir panique. C'est pour ça qu'elle se précipite en ce moment. Parce qu'elle voit bien que le peuple se réveille. Et il ne se réveille pas en proposant encore une énième alternative, encore une lubie idéologique. Le peuple se réveille en repuisant dans ses racines. Et n'oublions pas que Simone Veil nous dit dans l'enracinement que c'est le bien quasiment le plus important pour l'âme humaine, cet enracinement que veut le peuple aujourd'hui. Il veut chanter, il veut agiter son drapeau français, il veut plus de solidarité, il veut le bien commun, il veut restaurer ses calvaires. Et donc, il faut agir. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas gagner une guerre sans se battre. Donc, il faut chacun d'entre nous, chacun, doit à un moment de sa propre journée voir qu'est-ce qu'il peut faire pour la France. Vous savez, c'est ce que Kennedy disait aux Américains, ne demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais vous pour les États-Unis, ben c'est pareil pour la France. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la France ? Et il n'y a aucune personne, je ne connais aucun être humain, qui n'ait pas quelques instants à passer pour son peuple, pour sa patrie, pour sa culture. Donc c'est à nous aussi de rentrer dans cet état un peu plus militant. Et je sais que parmi vos écouteurs, vous avez des auditeurs, vous avez déjà beaucoup de militants, mais à chacun de nous d'aller encore plus loin, tout en surveillant évidemment nos devoirs d'État, parce que c'est la priorité, et d'attirer nos amis dans ces lieux où les Français se retrouvent, partagent leur culture. Vous savez, il y a beaucoup de nouveaux qui débarquent dans ces milieux-là, qui rêvaient de ça, mais qui n'osaient pas. Une fois que ces nouveaux arrivent, eh bien, il faut les garder, puis il faut tisser des réseaux entre ces Français qui n'ont pas dit non, et sortir aussi de cet esprit de cabine téléphonique, hein, désolé, je suis quand même un homme du XXe siècle, eh bien, d'extirper ces Français qui pensent qu'ils sont les seuls à savoir exactement ce qu'il faut faire, et qu'en dehors d'eux, il y a point de salut. Il va falloir faire des concessions, il faut converger, et c'est possible, parce que la France l'a déjà fait. C'est ce que je rappelle aussi dans mon livre, j'ai un petit court rappel historique où la France a déjà connu pendant la guerre des Cent Ans une situation terrible avec deux papes, avec les Bourguignons qui se battent contre les Armagnacs, avec le roi Charles
III. Il y a même eu trois papes hein, un certain temps. Donc c'était
compliqué. Même trois papes, exactement. Charles VI qui est fou, Jean II, si je ne dis pas de bêtises, qui pendant la guerre de Poitiers se fait kidnapper par les Britanniques.
Le traité de Troyes, le malheureux traité de Troyes.
Exactement. Donc, on traverse une période où n'importe, même si la France, celle qu'on connaît aujourd'hui, n'existe pas à cette époque-là, mais tout le monde à cette époque peut se dire que le royaume de France va disparaître. Et une Jeanne d'Arc arrive. Et une Jeanne d'Arc arrive, une bergère. C'est complètement. C'est une histoire folle. Elle arrive, elle convainc le roi qu'il faut qu'elle prenne la tête de l'armée. Enfin, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est encore quand on s'installe, quand on. Deux secondes et qu'on réfléchit à cette scène. Mais pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc y arrive? Parce qu'il y a déjà derrière elle un peuple qui croit, un peuple qui ne veut pas perdre ses valeurs, un peuple qui ne veut pas se soumettre. Donc avant que Jeanne d'Arc arrive, il faut que les Français renouent avec ses valeurs. Et croyez-moi, il ne faut pas qu'on soit des millions ou des centaines ou des dizaines de millions. Ce qui change, ceux qui changent les sociétés, ce sont les minorités agissantes. Et là, je me réfère aux travaux de penseurs italiens, de sociologues, d'économistes comme Pareto, comme Robert, comme Mosca, qui expliquent que les sociétés changent avec des minorités agissantes. Ce qu'il faut, c'est que de plus en plus de personnes participent à cette grande aventure de renaissance de la France, que nous construisions, que nous constituions ces réseaux, et dans ce terreau que nous allons retravailler, parce qu'on a asséché, on a mis la France en jachère, et bien dans ce terreau que nous allons retravailler, avec ces réseaux, nous allons avoir des Charles de Gaulle, des Jeanne d'Arc, des personnalités qui vont prendre la qui vont avoir la responsabilité de mener le peuple
J'aime beaucoup votre métaphore du jardinier. Et donc, pour répondre à notre auditrice à propos de Jeanne d'Arc, lui dire qu'il faut que chacun, là où nous trouvons, avec nos moyens, nous cultivions notre jardin. Et puis, de là, ne manquera pas de germer, puis de jaillir plus que nos petites entités. Mais encore faut-il prendre la pioche, bêcher, se faire un petit peu mal au dos pour que surgissent de belles plantes. Alors après, il y a aussi le regard que vous portez, vous, sur les politiques qu'un auditeur considère comme opportunistes. Moi, je suis moins critique que lui parce que je pense que là aussi, ici ou là, on a, alors c'est peut-être pas encore des gens qui sont au gouvernement, mais vous avez des gens qui se lancent dans la politique, et ce n'est pas facile, et qui tentent, là encore, de servir le bien commun. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont un regard généralement critique sur tous les politiques, ou vous les regardez avec plus de bénévolence?
Alors, Je les vois un peu des deux côtés. Je fais un premier constat que les politiques de droite comme de gauche mènent la même politique globalement.
Blanc bonnet, bonnet blanc, disait Georges Marchais autrefois. Mais il n'avait pas tort.
Duclos, oui, c'est ça.
Jacques Duclos, oui.
Et on est dans cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dit, comment est-ce que c'est possible qu'un Sarkozy, qui a un mandat populaire, est élu et qui dit qu'il va nettoyer les banlieues au Karcher, même si l'expression est pas forcément très intelligente, on pouvait s'attendre à ce qu'au moins, une fois élu, eh bien, il y aurait un peu d'ordre qui serait rétabli en France. Ça n'a pas du tout été le cas, au contraire. Comment est-ce que François Hollande puisse oser dire aux Français que son plus grand ennemi, c'est la finance? Et puis après, il cède les rênes à Emmanuel Macron, qui est un banquier Rothschild. Donc, si vous voulez, on voit très bien que de gauche comme de droite, les politiciens font des annonces pour attirer les électeurs, mais une fois élus, non seulement ils ne mettent pas en place les programmes pour lesquels ils ont reçu un mandat, et parfois un mandat général, Sarkozy, il avait l'Assemblée nationale, et non seulement ils ne le font pas, mais ils font parfois le contraire. Et si vous regardez aujourd'hui, Mélanie, qui a été élue sur un programme très anti-immigrationniste, elle a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin. Donald Trump est un bon exemple aussi. Quand on voit ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il avait promis de faire, on est quand même très, très loin de son programme, alors que, de nouveau, il avait reçu un mandat populaire massif avec la Chambre des représentants et le Sénat, avec une majorité de son camp républicain. Donc, je ne jette pas tous les politiciens, et j'en connais, qui sont de très bons niveaux. Et je pense que le niveau s'améliore. Pour autant, je pense que c'est un leurre de croire que le système politique actuel, qui est, comme l'avait dit Michel Geoffroy, comme je disais en début, tout en bas de la pyramide de la construction de pouvoir dans ce projet mondialiste, puisse tout changer. C'est-à-dire que demain, il faut aussi qu'il y ait, je pense, c'est fondamental, un appel du sol. Il faut qu'il y ait un appel du terroir, du terrain. Il faut que le peuple se réveille, mette la pression sur les politiques, parce qu'aujourd'hui, on a des politiques qui prennent le pouvoir, et même des personnes qui annoncent aujourd'hui des programmes disruptifs de changement, je vous garantis qu'une fois arrivés au pouvoir, eh bien, à cause de ingérence des médias, des oligarques, c'est très difficile de mettre en place un programme quand vous n'avez pas les médias de votre côté, quand le peuple n'est pas prêt à descendre dans la rue pour vous soutenir. Donc je dis attention de croire que la nouvelle Jeanne d'Arc viendra d'un parti politique.
Non, alors grâce à cette auditrice, et je prie de bien vouloir m'excuser pour les auditeurs pour lesquels nous n'aurons pas le temps de répondre à l'antenne, mais je leur promets que je leur répondrai à partir de ma messagerie. Vous avez déjà évoqué, pour faire pièce au constat tragique de la première partie, un premier outil de sursaut. C'est finalement là où vous êtes, localement, que vous soyez des familles, que vous soyez des gens plus isolés, là où vous êtes, vous pouvez préparer le terrain. Et je m'élève un petit peu en disant tout ce qui vous anime de beau, de vrai, de bien, que ça soit dans une fête locale, que ça soit enfin, un peu toutes sortes d'événements, vous pouvez manifester. Ce qui fait, vous m'arrêtez si je synthétise mal une partie de votre pensée, tout ce que vous faites et qui contribue au vrai, au beau et au bien, c'est-à-dire ces transcendantaux qu'évoquait enfin, de la philosophie médiévale, mais qui nous ramènent à la philosophie de l'Antiquité, ce qui fait tenir une civilisation, le vrai, le beau, le bien, ben, là où vous êtes, vous pouvez les cultiver avant que ne jaillisse une solution politique. Donc ça, c'est un premier élément très positif. C'est que chacun, on détient une partie de l'avenir. Et que, finalement, quand on dit on écrit l'histoire, mais on ne sait pas l'histoire qu'on écrit, chacun, là où il est, peut écrire une partie de cette petite histoire qui contribuera au relèvement. Vous évoquez aussi, alors vous avez une douzaine de chantiers, donc on ne peut pas, dans les 20 dernières minutes, tous les évoquer. Mais vous dites, en citant Bernanos, vous citez Bernanos, lorsqu'on pense aux moyens chaque fois plus puissants dont dispose le système, il écrit ça peut-être un peu avant de mourir, un esprit, évidemment, ne restera libre qu'au prix d'un effort continuel. Donc, cet appel au sursaut, il suppose aussi une liberté d'esprit. Donc, c'est compliqué. À notre époque, des écrans, des plateaux télé, des experts qui savent tout, ou qui semblent tout savoir, c'est compliqué. Il faut cultiver une vie intérieure, il faut savoir s'isoler. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour tous ces petits ou grands jardiniers qui vont faire de la France un nouveau jardin ?
Alors, d'abord, c'est le courage. Vous savez, là, j'aime bien comparer cette époque-là à l'époque de la France de 40, qui en un mois est humiliée par les Allemands pour la troisième fois depuis 1870. Et il faut du courage. C'était tellement facile de baisser les bras, de dire « bon, c'est pas grave, on va se mettre à l'allemand, on va se soumettre, on était mauvais, on n'était pas préparé. » Ou alors, vous avez quelques personnes qui se sont dit « non, j'accepte pas ça. » Non, j'accepte pas que la France se soumette. Non, pour une troisième fois, je ne veux pas de ça et je vais y aller. Alors, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre les armes. C'est pas ça. Je suis en train de parler de l'esprit. Je suis en train de parler de l'esprit de ces Français qui, à cette époque-là, et je le dis très clairement, hein, de gauche comme de droite, vous prenez un Jacques Renouvin ou un Jean Moulin ou un Michel Manoukian, vous avez trois idéologies différentes, mais vous avez une même passion pour la France, pour sauver la souveraineté de la France. Et donc, du coup, ces personnes sont allées au carton. Ces personnes, certaines sont allées, ont été massacrées, ont été torturées. On n'est pas encore à ce stade-là, mais je dis, si ces personnes-là, pour sauver la France, ont été prêtes à aller jusqu'à donner leur vie pour la France, nous, aujourd'hui, quelles excuses avons-nous alors qu'on n'en est pas quand même à ce stade encore? Donc, il faut du courage. Ça, c'est important. Là, ce que nous dit Thucydide, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On parlait tout à l'heure de cette société progressiste qui était censée tout nous apporter. On cherche le bonheur. Pour moi, je pense que ce bonheur est d'abord céleste et on a un lien avec le monde.
Si on peut en avoir une petite part ici-bas, c'est souhaitable.
Exactement. C'est ce qu'on peut. On peut s'engager quand on fait de la politique ou quand on s'engage à la politique à au moins apporter un peu de cela à la société. Et Thucydide dit que la liberté se confond avec le bonheur et que le courage se confond avec la liberté. C'est-à-dire que dans ce triptyque, je pense que Thucydide explique tout. Si on veut le bonheur, eh bien, il faut qu'on soit libre. D'accord ? Libre au sens, pas libre au sens où on fait ce qu'on veut, libre dans le sens où on fait ce qui est bon, évidemment dans un sens plutôt antique. Mais pour avoir cette liberté et pour avoir ce bonheur, il faut du courage. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient de profiter de notre cupidité, de notre naïveté et aussi de notre paresse. Donc, il faut du courage. Et le courage qui est demandé aux Français n'est pas celui de mettre sa vie derrière ses idées. Le courage, il consiste à dire qu'il aime la France. Le courage consiste à dire qu'il va aller soutenir un spectacle, qu'il va donner de l'argent à Radio Courtoisie,
Axel, justement, Axel,
oui, le courage question. Peut être très simple, un peu comme disait Solzhenitsyn, qui disait, alors, en faisant référence au mensonge, en disant « le mensonge ne passera pas par moi ». Et donc, c'est une forme de courage, et c'est peut-être ce genre de courage qui est un peu à la portée de tout le monde, de chaque Français, de dire « voilà, peut-être qu'il y aura du mensonge à côté, mais pas par moi. Moi, je ne le ferai pas ».
C'est exactement ça. Et n'ayons pas peur des colibés, parce que nous avons plutôt, paradoxalement, le vent en poupe. Je pense que vous, comme moi, ça fait depuis quand même quelques décennies que nous avons l'impression de prêcher dans le désert, en tout cas pour ma part. J'ai l'impression qu'il y avait des choses que je disais il y a 30-40 ans, on me regardait bizarrement, et aujourd'hui je vois de plus en plus de personnes, et je sillonne la France pour faire des conférences, pour parler aux personnes, et je rencontre des personnes d'horizons complètement différents qui ouvrent les yeux, même pas des personnes qui viendraient de notre petit club de, on va dire, de personnes qui avaient peut-être vu la situation et qui avaient mieux comprise, en tout cas que d'autres. Donc aujourd'hui, il faut le courage de dire, voilà, moi je veux qu'on parle français, je veux bannir les mots anglais de mon discours, je veux cultiver la culture française et je veux aussi défendre les intérêts des Français et dire aujourd'hui, et il faut aussi aider toutes les entreprises qui vont dans la bonne direction.
Oui, mais vous voyez, vous parlez de courage et en vous écoutant, je songe au courage qu'ont un certain nombre et de plus en plus de familles qui n'ont pas de gros moyens financiers, mais qui montent des projets d'école hors contrat, qui font des kilomètres pour mettre leurs enfants dans telle ou telle école, pas par volonté d'isolement, mais justement par le souci de les ancrer dans un terrain qui va leur permettre d'affronter l'existence. Je pense à ces familles qui luttent courageusement contre ce sinistre programme EVARS dans les écoles. Mais il faut avoir un sacré courage pour, à une réunion de parents d'élèves et face au directeur d'école, dire « mais moi, mes enfants n'iront pas, ou ils n'iront pas à telle ou telle sortie scolaire, ou à telle vision de cinéma, parce que justement, c'est contraire au vrai, au beau et au bien. » Et ça, c'est pas le courage de juin ou de juillet 40, c'est un autre courage quotidien de tous les jours qu'il faut essayer d'encourager.
C'est exactement ça. Et on ne va pas y arriver sans ce courage. C'est-à-dire ceux qui disent « Ah, c'est fichu !» Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Sachant que chacun d'entre nous n'est pas amené à un geste héroïque. C'est juste du courage de rappeler ce qu'on souhaite avec beaucoup d'humilité, de simplicité, de rappeler que la France a été grande quand elle était souveraine et qu'elle périclite depuis qu'elle est engagée dans des projets supranationaux comme l'OTAN, comme l'Union européenne. C'est pas la même chose que de se dire je vais essayer de faire je vais mener une attaque comme ont pu faire les résistants. On est juste en train de dire il faut y aller. Et de plus en plus de Français le font. Moi, je trouve que les Français sont de plus en plus courageux. Je rencontre tous les jours des personnes qui... On parlait il y a peu de temps d'une... Je ne sais plus quelle collectivité locale où les maires, enfin les responsables, les élus, pardon, cherchaient une fête pour les enfants. Il y a tout d'un coup un responsable, un élu qui dit, alors il était dans un contexte, je pense, favorable, qui dit, bah, écoutez, on pourrait peut-être relancer ou lancer, il ne l'avait jamais fait, une fête en l'honneur de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le patrimoine chrétien français, c'est notre patrimoine culturel global, et tout le monde a dit oui, c'est superbe. Vous imaginez, le courage, là, consiste juste à dire je vais proposer quelque chose. Personne n'a dit non, c'est passé comme une lettre à la poste, et maintenant, eh bien, les petits jeunes de ce village vont fêter Saint-Nicolas chaque année. C'est magnifique, et c'est une personne dans un club de foot, dans un cercle de réflexion, dans une école, peut changer le cours des choses. Et parfois, c'est pas aussi simple. Donc, il faut trouver le bon sujet. On peut pas gagner sur tous les tableaux, mais intelligemment, on peut parce que, pourquoi ? Parce que le peuple français recherche de plus en plus, eh bien, un sens à son existence, un sens à sa vie, un sens au fameux vivre ensemble. Et donc, nous apportons des solutions pluriséculaires. des solutions qui ont fait leurs épreuves, des solutions que d'autres pays mettent en place. Vous savez, tous les pays ne sont pas dans la même chute que nous. Donc, il faut s'inspirer de cela et de se dire que nous avons des racines profondes, que nous sommes une vieille nation, une des nations les plus admirées au monde, et que, eh bien, en renouant avec ces racines, qui ne sont pas en plus des programmes politiques d'extrémistes, qui ne sont pas des programmes irréalistes, c'est tout à fait faisable. On va juste renouer avec ce qu'on a fait pendant des siècles pour faire de notre pays un grand pays. Ce n'est pas compliqué. Et bien expliqué, si nous incarnons en même temps les valeurs que nous disons défendre, on va y arriver. Et d'ailleurs, on est en train d'y arriver en ce moment.
Alors, vous dites dans vos 12 chantiers, et on ne pourra pas évidemment tous les évoquer aussi, qu'il faut créer une nouvelle élite. Donc là, dans votre première description, vous dites un peu partout, je vois dans le peuple émerger un souci d'identité. Ça fait objet de débat, y compris au sein de l'Église, entre les cathos identitaires, enfin bref. Mais tout ce peuple que Guy lui évoquait aussi, le peuple des périphéries, est en train de se dire, mais au fond, on nous a privés de beaucoup de choses. Et là, je pense qu'il y a une partie de la bourgeoisie française qui est largement en cause, celle qui traverse toutes les épreuves, qui garde son compte en banque bien au chaud, qui a voté pour qui on sait aux deux dernières élections, qui est prête à tous les compromis. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui se disent, mais on nous a peut-être roulé dans la farine et depuis longtemps. Mais là où le populisme, entre guillemets, a ses limites, c'est que tout peuple, toute nation, tout État a besoin d'une élite. Et donc, il faut la reconstruire pour que peut-être un jour, les changements que vous observez à la base se traduisent au plus haut niveau. Parce que si on veut reparler de souveraineté, d'indépendance de la France, il faut des juristes, il faut des militaires, enfin il faut des hommes politiques qui soient bien membrés, si je puis dire. Alors, comment préparer ce renouveau de l'élite ?
Ça, dans cette stratégie, cette logique de reconquête du pouvoir, donc chacun, évidemment, l'a compris, s'implique à son niveau et va aussi loin que possible sans mettre en péril son devoir d'État. Mais tout le monde fait plus que ce qu'il pense qu'il fait. Ça, c'est indispensable. Deux, ces personnes qui vont travailler ensemble. Il y a là un deuxième point qui est fondamental, c'est constituer des réseaux. Donc, en effet, il faut travailler au niveau local, là où on est, mais il faut aussi penser à ceux qui, localement, travaillent ailleurs et trouver des groupes, des centres, des réseaux qui existent déjà, ou en créer d'autres pour que les personnes se rencontrent, se retrouver, par exemple, à des événements qui rassemblent beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui se retrouvent autour de ces valeurs. De ce travail vont sortir de plus en plus de personnes qui vont comprendre qu'il va falloir aller encore plus loin dans l'arène et qui vont être, comme vous le disiez il y a quelques instants, qui vont être bien structurés avec, je pense, j'espère en tout cas, inspirés par quelques-uns des chantiers que je propose sur la défense de la justice, du bien commun, de la culture, de l'amour, de la vérité. Donc je pense que ces éléments-là doivent me motiver à ces personnes-là qui vont travailler ensemble et de ça va naître quelque chose. Je ne suis pas en train de dire, allez, mais non, on lance tout ça et vous verrez. C'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de tous les peuples qui résistent. Vous savez, c'est bien un élément qui met Michelet et Bainville d'accord, c'est que l'histoire de France, ce sont des pages noires et des pages blanches. On n'a pas que... C'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on a déjà connu cette situation dans le passé, mais nous devons encourager à ce que les personnes aussi qui pensent correctement, qui veulent faire renaître la France sur un socle souverain, eh bien, travaillent ensemble. Donc, nous devons aussi encourager l'unité, l'union. On doit mettre la pression sur ceux qui descendent dans l'arène pour qu'ils œuvrent pour cette unité. Parce qu'on voit beaucoup de personnes aussi qui se battent pour garder un pré carré d'intérêt politique. Donc, on doit dépasser ça. L'heure n'est pas à ça. Mais en revanche, aujourd'hui, on doit soutenir ces différentes personnes et encourager de plus en plus de personnes à se mouiller un peu plus. Chacun doit faire plus, mais il y en a certains qui doivent aller encore un peu plus loin. Ça, c'est l'appel du courage. Tout le monde n'est pas appelé à ça et ces personnes-là doivent travailler en réseau. Et je leur rappelle, ne penser que restaurer la France se passera en presse-bouton, non. C'est l'œuvre du travail. C'est l'œuvre d'un travail qui peut être long, qui sera peut-être un travail de plusieurs générations. Je ne veux pas faire peur, mais si on n'y a pas assez d'ouvriers, eh bien, on ne va pas y arriver. Donc, plus on est d'ouvriers maintenant, plus on est nombreux, plus on a de chance peut-être de voir un jour cette victoire de notre vivant. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas désespérer. Mais si on ne pousse pas tous chacun, si on travaille, on n'est pas de plus en plus à labourer ces terres, il n'y aura pas assez de personnes qui seront capables d'assumer ce rôle de nouvelle élite. C'est-à-dire des spécialistes, des vrais spécialistes qui ont comme seule envie de défendre les intérêts des Français. dans le domaine juridique, dans le domaine politique, dans le domaine agricole, industriel, etc.
Vous avez nommé deux questions là, dans votre immédiat propos. C'est la question de la justice et de la vérité. Et hélas, parce que ce sont des événements tragiques là, de ces derniers jours, le viol et puis l'assassinat de cette petite Liana dans le Gers, qui me paraît être un élément déclencheur majeur dans l'opinion publique. Alors c'est peut-être l'avantage de notre société médiatique, mais c'est que la question de la justice, alors pas seulement de la question de la justice au sens institutionnel du terme, mais c'est la question de la justice au premier sens du mot, c'est-à-dire la reconnaissance des droits de chacun, et notamment des enfants, mais au-delà de ceux qui sont faibles, qui sont fragiles, qui sont vulnérables, et le sentiment aussi, et là je reviens à la question institutionnelle, qu'il y a une justice pour les puissants et une justice pour les autres. Et quand on évoque l'affaire Epstein, dont le président de la République a dit qu'elle ne concernait pas la France, j'ai l'impression aussi que se convergent aussi alors, ces événements tragiques récents, l'affaire Epstein, d'autres affaires, qui font que dans une partie du peuple, il y a vraiment le sentiment qu'il y a une certaine inégalité de traitement et que, à mon sens, tout ça contribue aussi à une transformation des mentalités et à une remise en cause de l'élite. Alors, est-ce que cette affaire-là tragique va pousser dans ce sens-là, là, de la justice ou de la vérité? Moi, il me semble que oui, et qu'on est là dans des jours très importants pour les évolutions de la mentalité du peuple. Et précisément, un auditeur là me dit, il faut qu'un peuple se réveille et non pas le peuple. Sous-entendu, ça devrait suffire pour que le levier fonctionne. La diversité, alors quelqu'un il rajoute, la diversité n'est prônée que par le grand diviseur pour régner. Il me semble que la diversité, avec ses limites, est inévitable quand il s'agit de parler d'un peuple. Les rois de France parlaient de leur peuple au pluriel. Mais voilà, c'est une observation, événement tragique qui pousse à chercher plus de vérité, plus de justice. C'est quand même fondamental pour une société. Quel est le regard que vous portez sur les conséquences possibles de cette affaire Liana sur l'opinion publique?
L'élite en place va péricliter, va chuter à cause de ses excès. C'est-à-dire que cette affaire Epstein ou ces histoires de pédophilie, de viol, d'injustice au sens beaucoup plus large qui dépasse ça, injustice sociale, comme vous le disiez il y a quelques instants, de justice à deux vitesses, voire 3-4, n'est pas nouvelle, mais elle est mise en lumière. Si vous voulez, cette élite n'est plus une élite. Ceux qui ont déconstruit la France, à une époque, avaient un peu de culture, croyaient peut-être encore même un peu au bien commun ou à la justice, mais petit à petit, ils ont été amadoués par ce projet mondialiste. Ils ont cédé des pans entiers de notre souveraineté à des puissances étrangères, à une organisation étrangère, voire même à des puissances financières étrangères. Et puis, leur niveau de mœurs est devenu décadent. On est dans un système qui est similaire à la décadence de l'Empire romain. Et quand on voit l'envers du décor de l'affaire Epstein, avec des milliardaires de toute la planète qui se retrouvent...
Et
dans
la
les
moitié
parties...
des dossiers, au moins, n'est pas sortie encore.
Et oui, et d'ailleurs, Trump, ça va lui faire mal aux prochaines élections, parce que oui. Les Américains ne comprennent pas. Pourquoi retenir? Si on a des dossiers, pourquoi est-ce que personne n'est inculpé dans l'affaire Epstein? Qu'est-ce qu'il y a de si secret? On sait qu'il y a des histoires de pédophilie, des histoires de parties fines, on sait qu'il y a des personne extrêmement puissante au niveau mondial. Et quand Macron dit que ça ne concerne pas la France, ce n'est pas vrai. Epstein vivait en France pour une partie de l'année. On a des noms.
On dit qu'il était résident fiscal en France aussi.
Oui, oui, bah, bien sûr. Quand il était en France, il ne faisait rien de mal. C'est que quand il était aux États-Unis. Vous voyez, ça ne marche plus, ça. C'est-à-dire que le peuple le voit. Et à une époque, je pense qu'il faisait ça. Ce n'est pas nouveau, ce type de comportement. Il le faisait dans les années 50, 60, 70. On le voyait moins. Je pense qu'eux le faisaient moins aussi parce qu'il y avait un niveau... Je pense que la culture était
peut-être
quand même plus
de retenue aussi.
Certainement de retenue. Aujourd'hui, c'est au grand jour. On sait qu'ils le font. On sait que c'est scandaleux. On sait qu'il y a des vies brisées, qu'il y a des morts. Il y a des morts même. Et aujourd'hui, le peuple
peut-être
le voit.
Peut-être mort d'enfant.
Mort d'enfant. Mort d'enfant, est-ce que vous imaginez dans quelle situation on est arrivé quand on... Donc aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus gênées, malheureusement, parce que, pas forcément pour les bonnes raisons, parce que d'abord, le bonheur qu'ils leur est promis, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que dans une société saine, quel que soit, même qu'on puisse manger à satiété ou qu'il y ait le plein emploi, tout le monde devrait dénoncer ce type de situation. On ne le faisait pas autant dans les années 70 et 80 à cause de ça. Peut-être qu'on le savait moins, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tant qu'on y a accès, les personnes le voient. Comment peuvent-ils être crédibles? Ils ne le sont pas. Et donc, non seulement ils n'apportent pas le bonheur, le plein emploi, la sécurité, la justice, le fameux ruissellement, mais en même temps, ils se comportent comme des êtres diaboliques, des êtres qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, des êtres qui n'ont aucune moralité. Donc, forcément, il va chuter. Ces personnes-là ne peuvent pas, statistiquement, garder le pouvoir ad vitam aeternam. Ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux vont s'ériger une contre-élite valeureuse. Et je pense que c'est important aussi de cultiver la vertu. Quand on parle d'exiger la vérité, d'exiger la justice, de dire que nous, ce qu'on veut, c'est juste des hommes politiques qui assument leur faiblesse, mais qui disent la vérité. On veut ça plutôt que des hommes politiques qui nous annoncent tous les jours que ce qu'ils font est formidable. Donc, face à cette élite corrompue, une élite vertueuse. Mais d'abord, ça veut dire qu'il faut la susciter. Cette élite, cette élite n'est pas encore assez nombreuse. Elle va venir, mais seulement si elle est elle-même vertueuse. Si c'est pas... C'est le problème du système politique aujourd'hui. On voit que des personnes rentrent en politique parfois pour des raisons vertueuses et qui sont corrompues par le système. Une fois au pouvoir, pense que les prédécesseurs ont fait. Il faut lutter contre ça. Et ça, c'est la vertu qui va nous le permettre. C'est là qu'on doit avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par la défense des intérêts des Français et qui veulent ce qui est bon, juste, grand pour la France, pour eux, pour que nous retrouvions l'harmonie, la stabilité et, je peux vous le garantir, une prospérité. Mais cela ne peut pas venir de ce qui est mal. Vous savez, on juge un arbre à son fruit. Les fruits de cet arbre, en ce moment, institutionnels, sont pourris. Et donc, à nous de recultiver la terre pour que des beaux fruits sortent, des beaux arbres et des beaux fruits. Et la France en est capable.
Eh bien, cher Nicolas, il nous reste une minute pour conclure. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Le nombre d'interventions d'auditeurs indique que votre émission a certainement marqué les esprits, suscité pas des interrogations, mais certainement le souci d'approfondir les questions que nous avons évoquées, et puis d'encourager ceux qui étaient moyennement optimistes à transformer leur optimisme en espoir, pour certains l'espoir... en espérance, tout cela fondé sur des observations et des encouragements très concrets. Retournons chacun là où nous sommes, cultivons nos jardins au service du bien commun, sans illusion sur ceux qui nous gouvernent. Et je rappelle à nos auditeurs, et je les encourage, à acheter et à lire votre livre aux éditions du CIRT, publié cette année, Déclin et renouveau. Mon cher Nicolas, merci et j'espère à bientôt.
Merci à tous les deux, merci à tout le monde.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardo, assisté d'Axel Eniel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 15 juin 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement. Si vous êtes adhérent de notre association, et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.